France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. La proposition de loi Duplon sur le métier d'agriculteur sera-t-elle débattue à l'Assemblée ? La motion de rejet préalable déposée par son rapporteur est examinée. Nous irons au Palais Bourbon devant lequel sont garés quelques tracteurs. La dérive des finances de la sécurité sociale est connue, mais le système a atteint un point de bascule selon la Cour des comptes qui appelle à un effort d'économie sans précédent. Nous analyserons son diagnostic et ses recommandations avec Camille Magnard. Le Hamas dit avoir accepté une nouvelle proposition de trêve, mais pour l'instant, les bombardements israéliens se poursuivent à Gaza. Moins de 5% des terres agricoles sont désormais cultivables ou accessibles, ce qui aggrave le risque de famine. L'ordre économique mondial est en train de se fracturer, s'inquiète Christine Lagarde. La présidente de la BCE souligne les incertitudes qu'engendre la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Nous joindrons Fabien Cazot à Bruxelles. Ils sont prêts à dormir dans leur tracteur. Plus de 150 agriculteurs se sont rassemblés à l'appel de la FNSEA devant les grilles du Palais Bourbon et des actions équivalentes sont menées dans d'autres départements. Une mobilisation pour rappeler aux députés qu'ils attendent le vote de la proposition de loi Duplon censée lever les contraintes au métier d'agriculteur. Un coup de pression leur a semblé nécessaire alors que les défenseurs de l'environnement ainsi que des syndicats agricoles comme la Confédération paysanne dénoncent ce texte. Lauriane Delanoë s'est rendue devant l'Assemblée nationale.
Certains sont venus en train du sud de la France, d'autres en tracteur, partis des Yvelines tôt ce matin. Quentin Maurice, 30 ans, conduisait l'un de ces 8 tracteurs, maintenant garés devant l'Assemblée, pour marquer les députés.
Ça interpelle et ça montre comme ça aux députés qu'on n'est pas content. Par rapport à la loi de base, en fait, ils ont décortiqué un peu à leur sauce et puis ils nous ont remis encore plus de contraintes qu'on avait réussi un peu à enlever ou qu'on a déjà à l'heure actuelle. S'ils veulent toujours avoir de l'agriculture française, qu'ils nous laissent faire comme nous on sait faire.
Ces agriculteurs veulent que le texte s'applique au plus vite pour faciliter notamment le stockage de l'eau ou l'utilisation de produits phytosanitaires. Des mesures réclamées depuis la grande mobilisation il y a plus d'un an. Et face au risque de blocage parlementaire, ce nouveau rassemblement aujourd'hui leur semble indispensable.
On a quitté nos exploitations, on est en pleine saison. Moi, j'ai de la fraise à ramasser en ce moment. Voilà, mais je me suis mobilisé. C'est la loi de la survie, je vous le dis, c'est la survie.
Aujourd'hui, on est au bout.
C'était l'aboutissement de un an et demi de combat syndical où tout risque de tomber à l'eau, tout simplement.
On s'est mobilisé, on a passé des journées sur l'autoroute et tout. Et là, on a l'impression d'être trahi.
Tous ces membres de la FNSEA et des jeunes agriculteurs vont donc se relayer ici devant l'Assemblée le temps des débats sur plusieurs jours s'il le faut.
S'il le faut, c'est-à-dire si la motion de rejet déposée par le rapporteur du texte n'est pas adoptée. Julien Dive a fait cette démarche en réaction à ce qu'il appelle un blocage organisé. 3455 amendements déposés principalement par les élus de gauche. Mélanie Kuzelevitch, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Cette motion de rejet qui a pour but de renvoyer directement le texte en commission mixte paritaire sans débat dans l'hémicycle est en cours d'examen ?
Oui, et dès le début de la séance, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui défend la proposition de loi Duplon, a dénoncé l'obstruction de la gauche avec 3500 amendements. Il aurait fallu 100 heures de débat pour examiner la proposition de loi, estime Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée et co-signataire de la motion de rejet.
C'est le seul moyen de faire en sorte que le débat puisse se poursuivre, d'abord en commission mixte paritaire et ensuite à l'Assemblée nationale, puisqu'il y aura bien un vote au final sur ce texte. Donc ça n'obère pas la capacité à chacun de se prononcer sur le texte. Nous étions prêts au débat, je répète que nous étions prêts au débat. On se retrouve dans des situations où nous ne pouvons pas débattre.
Mais pour Benoît Biteau, paysan bio, agronome, député écologiste de Charente-Maritime, il s'agit ici d'une réelle confiscation.
C'est une motion de rejet qui est complètement... à contresens de l'histoire, c'est-à-dire que le groupe central et la droite et l'extrême droite veulent nous priver d'un débat de société sur un sujet qui concerne tous les citoyens.
Si elle est votée, la motion de rejet, la proposition de loi arrivera en commission mixte paritaire dans sa version sénatoriale, votée en janvier dernier, soit la version qui contient entre autres la réintroduction de l'acétamipride pour certaines productions soutenues par la FNSEA, une commission composée par 7 sénateurs et 7 députés qui doivent s'entendre sur un texte commun.
Mélanie Kuzelevitch à l'Assemblée nationale avec Florent Bujon pour les moyens techniques. La trajectoire des comptes sociaux reste hors de contrôle et a même atteint un point de bascule, prévient la Cour des comptes. Dans son rapport sur l'application du budget de la Sécurité sociale, elle dresse un constat très alarmant. Donc, bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, parle même d'un possible défaut de paiement dans les années qui viennent.
Oui, la Sécurité sociale pourrait se retrouver incapable d'emprunter assez d'argent pour financer le maintien de ses prestations à partir de 2027. Jusqu'à l'an dernier, elle pouvait emprunter sur les marchés à moyen et long terme grâce à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, mais celle-ci est arrivée au maximum de ses capacités et le déficit de la Sécu, lui, augmente toujours. Il est passé de 11 à 15 milliards d'euros depuis 2023 et devrait atteindre les 22 milliards cette année. Résultat, l'agence qui gère la trésorerie des comptes sociaux, l'ACOS, n'aura à ce rythme plus les moyens d'emprunter assez dans 2 ans, à moins qu'une loi organique soit votée, mais vu les divisions au sein du Parlement, elle a peu de chances de passer.
Et logiquement, Camille, la Cour des comptes recommande des mesures d'économie pour réduire ces déficits.
Oui, et comme 90% du déficit l'an dernier est dû à la branche maladie de la Sécurité sociale, c'est de ce côté-là que la Cour cherche des économies. Elle appelle à mieux contrôler et donc réduire le recours à l'intérim pour les professions paramédicales à l'hôpital, ces infirmières, ces aides-soignantes ou autres professions hors médecins qui sont recrutées en mission d'intérim faute de pouvoir embaucher durablement et qui coûtent au final plus cher que des titulaires. Repenser aussi les fonctions support à l'hôpital, ces personnels non soignants qui pourraient, selon la rue Cambon, être mutualisés sur plusieurs établissements. Le rapport préconise aussi de cesser la politique de baisse des cotisations sociales qui grève les recettes de la Sécu. Il propose même de soumettre les primes d'intéressement ou de participation des salariés à ces cotisations. Gain estimé 3 milliards d'euros. Et enfin, sur le volet assurance vieillesse, mieux encadrer le cumul emploi-retraite pour le rendre moins avantageux, alors que l'exécutif voulait plutôt le promouvoir lors de la dernière réforme des retraites et renforcer les contrôles sur les pensions de retraite qui sont versées à l'étranger, éviter en particulier que des personnes continuent de toucher la retraite d'un proche qui est décédé sans que l'information n'ait été transmise à l'administration française.
Camille Magnard, le gouvernement travaille à un plan obésité qui devrait sortir en septembre. L'annonce a été faite au cours de la visite à Chartres des ministres en charge de la Santé, Catherine Vautrin et Yannick Neuder, sur le site de production de l'entreprise Novo Nordisk qui produit le Wegovy, médicament anti-obésité. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Ce médicament, tout comme le Mounjaro produit par un autre laboratoire pharmaceutique, connaît un engouement mondial. Et en France, Tara, le gouvernement a profité de sa visite pour appeler à élargir la prescription des deux produits.
Oui, depuis l'automne dernier, ces traitements sont vendus librement en France et non plus en accès précoce, comme c'était le cas pour le Wegovy. Et ce sont donc les laboratoires qui fixent le prix autour de 300 euros par mois. Mais la prescription reste très limitée. C'est obligatoirement en France un médecin spécialiste, endocrinologue, diabétologue ou nutritionniste qui a le droit de rédiger la première ordonnance. Ensuite, les médecins généralistes peuvent renouveler le médicament. Mais ces produits miracles sont très encadrés. L'Agence du médicament, la ANSM restreint leur usage aux personnes atteintes d'obésité sévère, par exemple 1,60 m pour 90 kg et plus. Il n'est pas question, Aurélie, de les proposer à tout un chacun. Cela dit, le gouvernement a le souhait d'élargir la prescription et c'est aussi la volonté de la ANSM qui le proposera probablement d'ici la fin du mois de juin.
Il est donc probable que les médecins généralistes prescrivent bientôt le Wegovy. À l'échelle mondiale, on parle d'un milliard de personnes obèses qui pourraient bénéficier de tels traitements. Et pourtant, Tara, le fabricant Novo Nordisk, qui agrandit son usine à Chartres, vient de limoger son patron, c'était il y a 10 jours.
C'est vrai que l'entreprise qui avait détrôné LVMH sur les places boursières en Europe il y a un an est chahutée par son concurrent Mounjaro aux US. Puis surtout, les marchés entrevoient l'arrivée de médicaments génériques. Dans Le Monde, Isabelle Chaperon, la journaliste, rappelle que le sémaglutide, la molécule miracle qui imite une hormone intestinale, ne devrait plus être protégée en Chine, Inde, Canada, Brésil dès l'an prochain. Elle tomberait dans le domaine public. Les fabricants de génériques sont dans les starting blocks. Novo Nordisk s'inquiète, mais surtout, ça présage d'une baisse des prix à venir pour les patients.
Tara Schlegel, à l'occasion d'un comité interministériel de la mer à Saint-Nazaire, François Bayrou a annoncé le lancement d'un troisième plan de lutte contre la prolifération des sargasses, ces algues brunes aux émanations toxiques qui envahissent le littoral des Antilles. Ce plan contre les sargasses sera lancé dans les mois qui viennent. Il sera notamment axé sur le soutien à la collecte et à la destruction de ces algues. À Vannes, la cour criminelle qui juge Joël Le Squarnec depuis maintenant 3 mois s'est retirée pour délibérer. contre l'ancien chirurgien poursuivi pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes, l'avocat général a requis la peine maximale encourue, 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une rétention de sûreté. Au cours de son procès, Joël Le Squarnec a reconnu l'intégralité des faits, ce qui a été l'un des grands thèmes de la défense, Florence Turme, avant les derniers mots de l'accusé adressés justement aux victimes.
Je voudrais m'adresser à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont eu à subir les actes les plus ignobles que l'on puisse commettre, commence Joël Le Squarnec. La salle d'audience s'est remplie, silencieuse, l'amphithéâtre où sont retransmis les débats également. J'ai pris conscience de la douleur immense qu'ont provoqué mes crimes, poursuit l'accusé, avant de se tourner vers la cour. Je ne sollicite aucune mansuétude, simplement accordez-moi le droit de devenir meilleur, de reconquérir cette part d'humanité qui m'a tellement fait défaut. Il a écouté le dos voûté, la tête souvent baissée, les plaidoiries portées avec conviction par ses deux avocats. Réduire Joël Le Squarnec à ce qu'il a fait de mal, ce serait nier l'autre visage d'un homme, lance Thibaut Kurzawa. Il va commettre l'impensable pour un chirurgien, mais il va aussi guérir, soigner, soulager. Il s'arrête sur le mystère qui, selon lui, pèse sur l'enfance de son client. Une époque aussi, celle de la France d'il y a 40 ans, marquée par une forme extrême de banalisation de la pédopornographie. L'acte majeur de ce procès, enchaîne Maxime Tessier, c'est la reconnaissance totale des faits, sans ambiguïté, irréversible, préalable à une œuvre de justice réparatrice. Une reconnaissance dont l'authenticité, la sincérité ont parfois été mises en doute, mais il faut savoir accueillir ces aveux, insiste l'avocat, car ils confirment les dysfonctionnements majeurs de notre système de santé. Il le répète, son client n'est pas guidé par le souhait d'amoindrir sa peine, mais elle doit être aussi synonyme d'amendement et de réparation. Avec le discours de Robert Badinter sur la peine de mort pour conclure, aussi terrible, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont il faille pour toujours désespérer totalement.
Florence Turma, Vanne pour France Culture. De nombreux Israéliens ont défilé aujourd'hui à Jérusalem-Est à l'occasion des célébrations annuelles marquant l'occupation par Israël de la partie orientale de la ville sainte. Le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, visite considérée comme une provocation par les Palestiniens, tandis que le premier ministre Benjamin Netanyahou promettait, lui, de garder Jérusalem unifiée, indivisible et sous la souveraineté d'Israël. Thibault Lefèvre, vous êtes notre correspondant à Israël. À Jérusalem, l'armée israélienne occupe de plus en plus de territoires dans la bande de Gaza. L'espoir d'un arrêt des combats semble très loin. La journée a commencé, Thibault, par une frappe israélienne meurtrière sur une école.
Oui, c'est une journée comme une autre à Gaza depuis l'annonce de l'intensification de l'offensive israélienne il y a un peu plus d'une semaine, avec encore 52 morts dans des frappes selon les secours sur place, dont 33, vous l'avez dit, dans une école qui servait d'abri et qui devrait ou aurait dû être protégée en vertu du droit international. Tous les jours, les mêmes images de corps en charpie, carbonisés, sortis des décombres. Et puis encore tout à l'heure, un nouvel ordre de déplacement. Il concerne cette fois tout le sud de l'enclave, Rafah, Khan Younes et une partie de Deir el-Bala. L'armée israélienne demande à la population de se rendre dans la zone dite humanitaire d'Al-Mawassi. La plupart des habitants ne partent plus, harassés par 19 mois de conflit, et ils prennent donc le risque d'être bombardés à tout moment.
Et la guerre a repris le 18 mars à Gaza après 2 mois de trêve. Depuis, les négociations sont à l'arrêt, Thibault, mais il est question d'un nouveau projet de trêve ce soir.
Oui, ça frémit sur le front des négociations, mais là aussi, les informations contradictoires se sont succédées toute la journée. Sur la table, un nouveau plan qui a fuité ce matin dans la presse égyptienne. Il prévoit une trêve de 60 jours, la libération de 10 otages vivants, la restitution de 16 dépouilles en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Un représentant du Hamas dit l'avoir accepté, Israël l'a rejeté, et les États-Unis poussent pour arriver à un accord pour le moment sans succès. Les points de friction sont toujours les mêmes. Le Hamas exige la fin des combats, Israël refuse. L'État hébreu demande le désarmement de l'ennemi et l'exil de ses dirigeants, inacceptable pour l'organisation islamiste.
Thibault Lefèvre, à Jérusalem, et la famine menace les Gazaouis. Bonsoir Noé Pignel.
Bonsoir.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur la destruction quasi intégrale des infrastructures agricoles. 5% des terres agricoles de Gaza seulement sont encore cultivables.
Oui, aujourd'hui, quelques camions d'aide alimentaire sont entrés dans l'enclave assiégée par l'armée israélienne. Des camions immédiatement assaillis par des habitants affamés. Les Gazaouis ne peuvent plus compter que sur cette aide extérieure pour se nourrir, car l'anéantissement de Gaza par Israël n'a pas épargné le système agricole, autrefois autosuffisant. Plus rien ne pousse à Gaza aujourd'hui, 80% des champs sont dévastés et le peu qu'il reste est inaccessible à cause des bombardements. Une étude alarmante basée sur l'analyse d'images satellites menée par l'équipe de Benjamin Davis de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Le système agricole n'existe plus. Nous avons fait une simulation pour estimer les besoins en nourriture de la population en tenant compte du blocus humanitaire et cette simulation montre un effondrement total de l'approvisionnement en denrées alimentaires. Cela nécessite une réaction immédiate. Se nourrir n'est pas un privilège, c'est un droit.
Les Nations Unies s'inquiètent aussi des conséquences à long terme pour Gaza. Avant la guerre, un quart de la population dépendait directement du maraîchage et de l'élevage pour survivre et leurs 15 000 hectares de terre sont désormais largement contaminés par les débris des bombes israéliennes. Une pollution aux métaux lourds qui rendra la reprise de l'agriculture presque impossible et qualifiée d'écocide par plusieurs ONG environnementales.
Merci Noé Pignade. Et on est entré dans une nouvelle période de flottement dans la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. La fondation américaine qui devait prendre le relais de l'ONU cette semaine n'a plus de directeur exécutif. Jake Wood a annoncé sa démission officiellement parce qu'il estime ne plus avoir les moyens d'agir en respectant les grands principes humanitaires. Mais sa fondation semblait déjà fragilisée, Étienne Monin.
Cela faisait plusieurs jours que la fondation était déjà en train de tanguer. Elle a d'abord été violemment critiquée. Elle a ensuite perdu un membre fondateur, puis elle s'est retrouvée devant les instances administratives en Suisse, soupçonnée de ne pas respecter le cadre légal. Les poursuites ont été engagées par l'ONG Trial International, dirigée par Philippe Grant.
Les risques étant tellement importants que cette aide participe à des plans de déplacement de population et une distribution de l'aide qui viole tous les principes humanitaires. Il nous a semblé urgent que les autorités suisses ouvrent des enquêtes et demandent des comptes à cette fondation.
La Fondation humanitaire de Gaza a une structure à Genève, mais elle a son siège aux États-Unis. Elle est pilotée par d'anciens militaires et hauts fonctionnaires américains. D'après le New York Times, ce concept de soutien humanitaire a été élaboré en Israël. Son objectif principal était de tenir le Hamas à l'écart de la nourriture qui vaut de l'or à Gaza et de contourner l'ONU. Dans ce contexte, le bureau du Premier ministre israélien annonce que les distributions auront tout de même lieu par cette fondation à partir d'aujourd'hui sur un site. De son côté, l'ONU parvient encore à faire entrer des camions dans Gaza, mais de façon totalement sous-dimensionnée par rapport aux besoins.
Étienne Monin, la France et le Vietnam ont signé aujourd'hui plusieurs accords portant sur l'achat d'avions, la coopération dans l'énergie nucléaire, les chemins de fer, les satellites d'observation de la Terre via Airbus et les vaccins mis au point par Sanofi. Depuis Hanoï, première étape d'une tournée en Asie du Sud-Est, Emmanuel Macron a aussi évoqué les discussions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Donald Trump ayant annoncé la prolongation jusqu'au 9 juillet de la pause dans les droits de douane visant l'Europe, le chef de l'État s'est dit confiant. Ça n'est pas tout à fait l'état d'esprit de la présidente de la Banque Centrale Européenne. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Christine Lagarde s'inquiète des répercussions du climat d'incertitude actuel pour l'économie européenne.
Oui, et c'est assez rare que la patronne d'une institution financière comme la BCE se laisse à aller à des commentaires à chaud sur l'actualité, en l'occurrence sur les dangers de la politique économique de Donald Trump. Faut-il y voir un signe de solidarité avec son homologue de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a maille à partir avec le président américain? En tout cas, comme pour donner plus de solennité à son propos, Christine Lagarde a tenu à replacer les turbulences actuelles dans une perspective historique.
Au cours des 80 dernières années, l'économie mondiale a reposé sur des principes d'ouverture et de multilatéralisme promus en premier lieu par les États-Unis. En installant le dollar comme principale monnaie de réserve dans le monde entier, les États-Unis ont permis au commerce international de s'épanouir et à la finance de s'étendre. Cet ordre mondial a été très bénéfique à l'Europe, mais maintenant tout cela est en train de se fracturer.
En fait de multilatéralisme, on voit des pays se replier dans des relations bilatérales, poursuit Christine Lagarde. En fait d'ouverture, c'est surtout au grand retour du protectionnisme auquel on assiste aujourd'hui. Autant de facteurs d'inquiétude pour la banquière en chef de la zone euro qui discerne tout de même une lueur d'espoir pour l'économie européenne, celle de voir sa monnaie unique, l'euro, jouer un rôle plus central dans les années à venir dans le système financier international si le roi dollar venait à perdre quelques couleurs sous l'effet de politiques américaines résolument isolationnistes.
Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. L'Azerbaïdjan a gracié un Français condamné en septembre 2024 à 3 ans de prison sur fond de tensions entre la France et ce pays du Caucase. Théo Hugo Clerc, artiste français, avait été condamné pour avoir tagué un wagon du métro de Bakou alors que ses deux co-accusés, un Néo-Zélandais et un Australien, avaient eux écopé pour les mêmes faits d'une simple amende. Cette condamnation avait alors provoqué l'indignation en France. La météo, le temps sera gris demain sur la moitié nord avec de faibles pluies en matinée de la Bretagne aux Ardennes. Au sud, une sensation de beau temps malgré un ciel souvent voilé. Les températures seront généralement comprises entre 8 et 12 degrés au petit matin. Au meilleur de la journée, elles atteindront 19 à 23 degrés au nord, 21 à 29 au sud.